France Inter. .fr.
Bonjour Enrico Letta.
Bonjour.
Ancien chef du gouvernement italien de 2013 à 2014, issu du Parti démocrate, le centre-gauche en Italie, président de l'Institut Jacques Delors ici en France et directeur de l'École internationale de Sciences Po. Votre pays, l'Italie, est aujourd'hui en première ligne dans la crise des migrants, confrontée à des milliers d'arrivées chaque jour sur ses côtes. Elle ne parvient plus à les accueillir et menace même de fermer ses ports. Est-ce que c'est une crise humanitaire sans précédent?
Bon, écoutez, ça continue comme ça depuis beaucoup de temps et ça va continuer parce que il faut comprendre que l'enjeu de la migration est un enjeu qui est lié à la démographie. L'Afrique va doubler ses habitants dans les prochaines années et l'Europe va vieillir et va avoir moins d'habitants si il continue à ne pas y avoir de développement en Afrique. Les jeunes africains vont venir chez nous. Donc ça va continuer et si on ne réussit pas à faire monter le niveau de efficacité de la réponse européenne en termes de comment traiter les questions avec les pays tiers, comment séparer, Macron a raison, comment séparer réfugiés pour des raisons politiques et migrants pour des raisons économiques, et surtout comment faire en sorte qu'on puisse partager parmi les pays européens tout le poids de cet accueil.
Alors une vague migratoire comme celle-ci, vous en avez connu une, Enrico Letta, lorsque vous dirigez l'Italie à la fin de l'année 2013, et à l'époque, vous aviez lancé l'opération Mare Nostrum qui consistait à déployer la marine italienne sur le bord des côtes pour aider, pour recueillir les migrants. Pourquoi on ne fait pas la même chose aujourd'hui?
Bon, je pense qu'il y a eu toute une polémique vraiment absurde autour de tout ça. Parce que
on vous a accusé en gros d'avoir créé un appel d'air en sauvant les migrants, ce que font aujourd'hui les ONG. Est-ce qu'on pourrait refaire ça aujourd'hui?
Oui, parce qu'il ne faut pas le laisser au volontarisme pur. Il faut le faire d'une façon qui soit officielle, mais pour une raison très claire. On a un devoir de sauver les gens en mer, mais on a aussi un devoir de contrôle de la mer pour attaquer les trafiquants, pour avoir les preuves précises des crimes qu'ils sont en train de commettre, et de faire en sorte qu'avec ces preuves, nous on avait avec Mare Nostrum, il y avait les sous-marins qui filmaient, était en condition avec ses films de mettre en prison les trafiquants, les smugglers. Donc on était en condition de contrôler les choses et de faire en sorte que tout se déroule d'une façon ordonnée. Aujourd'hui, c'est un peu le chaos.
On a abandonné la Méditerranée aux passeurs aujourd'hui?
Moi, je pense qu'un peu c'est comme ça. Et surtout, on joue en Europe un jeu que je n'aime pas. C'est le jeu de laisser tout seul, chaque fois, quelqu'un. On a laissé toute seule l'Allemagne en 2015, quand 1 million de réfugiés sont entrés. Je pense que c'est un des sujets sur le couple franco-allemand, de se demander, quand on se trouve devant un drame comme ça, 1 million de gens, l'Allemagne a accepté 1 million de réfugiés, c'était une chose énorme. Et vraiment, elle a fait un peu ça tout seul. L'année passée, ça a été le tour de la Grèce, qui a été laissée complètement seule. Maintenant, c'est le tour de l'Italie. Mais j'ajoute, ça a été le tour de la France aussi. Pas sur les migrants, mais sur le terrorisme. Quand la France, en 15-16, a vécu les attaques les plus dures, les plus violentes, la France a demandé une solidarité au niveau européen. À la fin, elle ne l'a pas reçue de la façon qu'elle espérait.
La France, aujourd'hui dirigée par Emmanuel Macron, qui félicitait Angela Merkel pour sa politique d'accueil des réfugiés, doit-elle ouvrir ses ports aux migrants de la Méditerranée?
Moi, je crois que la question essentielle n'est pas celle de aujourd'hui ou demain ou au mois d'août ou de septembre. La question clé est celle de se dire qu'il faut mettre un dispositif en action tout de suite qui soit en condition de faire deux choses à la fin. La première, changer le traité de Dublin qui est à la base de tous les problèmes.
Qui oblige les demandeurs d'asile à s'inscrire dans le pays dans lequel ils sont entrés et pas ailleurs, qui les fixe en quelque sorte dans le pays.
Exactement. Ça, c'est le déséquilibre. Parce que on peut pas accepter le fait que la géographie en Europe soit la même dans tous les pays.
Et qui est à l'origine aujourd'hui de l'incroyable égoïsme des pays.
Oui,
ces migrants sont chez vous, gardez-les, à vous de régler ce problème.
Si vous voyez la géographie en Europe, défendre la frontière de la Belgique n'est pas la même chose que défendre la frontière de la Grèce. Ça, c'est intuitif. Donc, l'Europe, c'est la solidarité, puisque la frontière extérieure est commune à tous. Cette idée que chacun laisse le pays avec plus de côtes à régler lui-même les choses, vous savez, c'est un problème qui est lié exactement au fait que ou bien on résout la chose ensemble, ou bien c'est impossible. Donc ça, c'est la première grande chose. Et la deuxième chose, c'est celle de partager le poids. C'est-à-dire que si il y a 15 000 personnes qui arrivent, et ce sont 15 000 personnes qui ont toutes droit, parce qu'elles ont droit à l'asile pour une raison ou pour l'autre, une chose est de partager ça parmi 500 millions d'habitants en Europe. On ne voit même pas le problème. Et chacun peut gérer son millier de personnes aisément. Mais si vous avez Orban ou d'autres qui disent « moi, j'en prends pas », mais là, c'est un point politique.
Il y a ceux qui disent « j'en prends pas », et il y a ceux qui disent « j'en prends ». La France en avait fait partie la dernière fois. Et on voit qu'au bout de deux ans, quelques milliers de réfugiés seulement ont été accueillis. Mais en France, c'est une promesse qui n'a pas été tenue.
Oui, je pense qu'à la fin, la question clé est une question pour laquelle la solidarité, la charité, vous pouvez la demander aux individus. Mais quand il s'agit d'État, ce n'est pas une question de charité ou de solidarité. C'est une question de règles. Et il faut se donner des règles, et ces règles doivent être appliquées. C'est pour ça que le problème est politique, c'est-à-dire on a des règles binding, obligatoires, comme vous avez l'euro, le commerce, l'économie, sur, comme on dit en France, les domaines régaliens. L'État veut se tenir les compétences, toutes les compétences, l'État national, mais il y a des questions sur lesquelles l'État national est totalement débordé. Quand en Allemagne, il y a un million de gens qui cherchent à entrer, l'Allemagne ne va jamais gérer toute seule le problème. C'est pour ça que c'est une grande occasion perdue, parce que le sujet des migrants est un sujet sur lequel vous faites comprendre aux gens que l'Europe a un sens, parce que l'Europe peut vous aider dans un sujet sur lequel, tout seul, vous n'êtes pas en condition. Chaque État, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne, la Hongrie, chaque pays tout seul n'est pas en condition de le faire. Et si vous jouez toujours le jeu du bouc émissaire avec l'Europe, avec les autres, sans donner les compétences à l'Europe et sans partager avec les autres, une fois c'est l'Italie, une autre fois c'est l'Allemagne, c'est la Grèce, mais ça va être un jour l'Espagne, le Portugal, et ça ne marche pas. Et à la fin, les gens ne sont pas contents de ça.
Enrico Letta, sur le portrait du couple franco-allemand maintenant tel qu'il vient d'être dépeint par Anthony Bélanger, pas si fringant que ça, les attentes ne sont pas les mêmes, le moteur est cassé aujourd'hui entre Paris et Berlin.
Moi, je trouvais cette chronique très très intéressante et très bien faite. Le point essentiel, c'est que comme on l'a entendu, avant le 24 septembre, rien ne va se passer.
Date des élections législatives en Allemagne.
Donc il faut attendre le résultat électoral après le 24 septembre. De mon point de vue, il s'ouvre la plus intéressante et la plus défiante fenêtre d'opportunité que l'Europe n'ait jamais eue depuis 25 ans. C'est-à-dire, on va être dans une situation dans laquelle la France et l'Allemagne sont sorties de leurs élections. Elles ont une force politique unique. Elles n'auront pas de problème politique dans les. Elles n'ont pas d'élections. Donc la France et l'Allemagne seront en condition de faire des choses si elles veulent faire des choses en Europe. En plus, le Royaume-Uni sort. Donc, et ça c'est le point essentiel, j'espère qu'en France il y ait la conscience de ça. La France reprend une centralité en Europe grâce au Brexit, parce qu'elle devient la unique puissance militaire nucléaire qui est dans le Conseil de sécurité des Nations Unies avec le droit de veto. Et donc, elle a une grande responsabilité de plus dans un moment où, ça c'est mon point, la centralité de l'économie de la finance qu'on a vécue dans les dernières 10 années laisse le pas à une centralité d'identité politique sécurité qui donne donc à la France un rôle majeur dans une situation dans laquelle, on l'a vu avec Brexit et Trump, les gens votent surtout sur l'identité, la politique, la sécurité aujourd'hui. Plus de ce qu'ils faisaient il y a dans les dernières 10 années sur l'économie finance. Et quand c'était économie finance, c'était naturel que l'Allemagne avait la centralité. Aujourd'hui donc, il y a une occasion pour la France et c'est l'intérêt de tous. C'est moi qui le dis, je suis un Italien.
Oui.
Donc je le dis, c'est l'intérêt de tous parce que l'Europe ne peut pas vivre avec un pays qui domine sur les autres. L'Allemagne a été trop prédominante dans ces 10 années. Donc c'est un intérêt des Européens que la France crée ce rééquilibrage.
Enrico Letta, invité de France Inter jusqu'à 9h. On va continuer cet entretien évidemment dans quelques instants. On évoquera les premiers pas d'Emmanuel Macron sur la scène européenne. Le Brexit également, vous en avez parlé d'un mot. L'Europe a-t-elle à y gagner ou à y perdre? Et puis on évoquera, si vous voulez bien également, les Jeux Olympiques à Paris. Je crois qu'il y avait une ville italienne qui était candidate au tout début du processus et qui a jeté l'éponge en cours de route. Il est 8h31.